Bonjour à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et puis à suivre avec moi dans la première lettre de Pierre, comme cela a été mentionné au chapitre 5. Je lis dans la Nouvelle Bible Second. 1 Pierre, chapitre 5, nous sommes dans la suite des prédications que nous avons eues jusqu'à présent dans cette première épître de Pierre. J'encourage donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, un témoin des souffrances du Christ ayant part à la gloire qui va être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. Non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et lorsque le maître berger se manifestera, vous obtiendrez la couronne inaltérable de gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Jusque-là, la lecture. Seigneur, que cette parole que nous recevons comme ta parole, les mots qui viennent de ta bouche, que cette parole fasse son effet en nous ce matin. Amen. Dimanche dernier, à l'occasion des baptêmes que nous avons eus, nous avons eu l'occasion de méditer sur le 10e chapitre de l'Évangile de Jean, où nous avons vu qu'il y avait là la figure du bon berger, c'est-à-dire de notre Seigneur, le Seigneur qui a donné sa vie pour lutter contre les loups qui ravagent le troupeau. Et ces loups, j'avais suggéré que cela puisse être le péché, le jugement et la mort. Eh bien aujourd'hui, nous continuons une méditation dans la première lettre de Pierre où il est aussi question du grand berger et de petit berger. Nous allons parler du maître berger, comme il est dit au verset 4, et de ces petits bergers. Nous sommes là dans un contexte social qui est difficile. Il n'était pas facile pour les chrétiens de vivre leur foi dans la société de l'époque sans être jugés, sans être discriminés. Et puis, cela pouvait peut-être décourager certaines personnes de devenir responsables. Ou cela pouvait peut-être amener certains à se dire qu'ils allaient renoncer, qu'ils allaient cesser, parce que la charge de responsable était trop lourde. Qui a envie d'être responsable quand il doit faire face à une situation qui sera spécialement compliquée et peut-être même qui peut représenter des risques personnels? Et comment tenir dans ces situations-là? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois nous aimerions bien être un peu dans les coulisses, savoir ce qui peut se dire à des gens qui ont du pouvoir. Eh bien, ce matin, nous sommes invités à entrer derrière les portes closes du pouvoir, d'une certaine manière, dans les coulisses, pour entendre les instructions de l'apôtre Pierre à des gens qui sont responsables d'église. Or, que leur dit Pierre ? Il leur dit « Je suis un ancien », ça veut dire un responsable d'église. « Je suis un ancien comme vous. Je comprends le poids de vos responsabilités. Je comprends les peurs qui peuvent vous agiter. Je comprends les pressions qui peuvent vous assaillir. Moi aussi, je suis un leader dans l'église. » Alors, comment allez-vous pouvoir tenir dans la souffrance ? Et Pierre prend l'exemple de Jésus-Christ. Il dit, mais pour Christ, il a fallu qu'il passe par la souffrance avant d'être élevé en gloire. Et cela, on l'a vu tout au long de l'épître de Pierre, vous vous en souvenez. Il a fallu que Christ passe par la souffrance avant d'être élevé en gloire. Eh bien, pour vous, c'est normal que vous suiviez le même chemin, la souffrance avant la gloire. Voilà le chemin pour celui qui suit le Christ. En tant que responsable, vous serez sans doute aussi amené à souffrir à cause du ministère que vous exercez. Vous êtes des témoins du Christ. Et quand les gens vous voient endurer cette souffrance à cause du Christ, eh bien vous montrez que vous êtes des témoins du Christ. Et Pierre leur dit, mais regardez, aujourd'hui vous souffrez, aujourd'hui c'est difficile pour vous, mais regardez la gloire qui vous attend. C'est cela qui va vous aider à tenir. Si vous avez vos Bibles ouvertes, vous verrez que juste avant le texte que nous avons lu tout à l'heure, Pierre vient de s'adresser aux chrétiens en leur parlant de la persécution. Il leur dit, d'une certaine manière, que la persécution, c'est le début d'un processus de sélection pour séparer ceux qui sont vraiment attachés à Dieu de ceux qui ne le sont pas. Et Pierre leur dit, mais il est préférable que vous souffriez la persécution tout en accomplissant la volonté de Dieu, plutôt que d'être des chrétiens qui, par peur de souffrir, par peur d'éviter les problèmes actuels, renoncent à Christ, parce qu'alors vous devrez faire face à un jugement qui sera bien plus terrible. Pierre rappelle que ceux qui doivent souffrir présentement pour leur foi peuvent avoir confiance dans le Créateur. Le Créateur sait. Le Créateur voit. Le Créateur maîtrise. Et alors, pour les responsables, Pierre leur dit que en tant que petits bergers, ils peuvent faire confiance au grand berger. Le grand berger va être capable de prendre soin d'eux. Et donc, en tant que petits bergers, il leur dit, mais ne vous défaussez pas de votre responsabilité, ne vous défaussez pas de votre ministère, parce qu'il y aurait des difficultés actuellement. Continuez, continuez la course. La gloire de Christ vous attend. Alors j'aimerais m'arrêter un moment ici pour réfléchir à qui sont ces responsables dont il est question. Pierre s'adresse à des personnes qui ont la responsabilité de groupes locaux, ou ce qu'on pourrait qualifier d'églises de maison, où il pouvait y avoir sans doute 40, 50 personnes qui se retrouvaient, peut-être dans certaines églises de maison même davantage. Et les responsables de ces groupes locaux, de ces églises de maison, sont probablement des chefs de famille qui étaient chefs de leur maison, en fait. Les maisons dans lesquelles ces chrétiens se retrouvaient. Un peu comme aujourd'hui, on a des chefs de clan, par exemple, dans beaucoup de cultures africaines. Et la tradition chrétienne a donné ce titre d'ancien à ces responsables locaux. Anciens parce que c'était des gens qui avaient sans doute déjà un certain âge. C'était des personnes qui étaient reconnues pour être des gens sages et puis qui avaient une autorité naturelle sur leur clan familial. Et donc tout naturellement leur a demandé de diriger l'église qui se réunissait dans leur maison. On les a appelés les anciens, presbyteroi en grec, qu'on a traduit en français aussi par presbytre. Plus tard, ces anciens qui étaient vraiment des aînés tout au début, ces anciens, le terme ancien est devenu une sorte de titre pour la fonction de responsable d'église. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre décrit à quoi sont appelés ces anciens, ces responsables. Au verset 2, il dit « Faites paître le troupeau ». Voilà à quoi sont appelés des responsables, faire paître. Faire paître, c'est la fonction du berger. Or, un berger, vous le savez, c'est un pâtre. Et un pâtre, c'est un pasteur. Mais ces anciens ne sont pas juste appelés des pasteurs au sens moderne du terme. Parce qu'en fait, dans le Nouveau Testament, la fonction pastorale, comme nous la connaissons, n'existe pas. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais il n'y a pas de pasteur au sens où nous l'entendons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Ici, il est question de gens qui sont chargés de faire paître. Donc des responsables d'église qui sans doute souvent étaient des bénévoles, mais parfois pouvaient être des salariés, des gens qui avaient une rémunération. Faire paître, c'est la mission des responsables de l'Église. C'est donc la mission que doivent accomplir les anciens. Que veut dire faire paître? Il me semble qu'il y a deux directions principales. Celui qui va faire paître un troupeau doit conduire le troupeau. Donc il y a une mission de leadership. Leader veut dire conduire, hein. Il y a une mission de leadership. Et celui qui fait paître doit nourrir aussi. Quand il amène son troupeau dans les champs, c'est pour lui amener la nourriture. Les responsables d'église doivent alimenter le troupeau. Il faut imaginer ce troupeau, peut-être que l'image de la course de fond va davantage vous parler. Les gens qui doivent être alimentés doivent être ravitaillés. C'est un peu comme si les membres du troupeau étaient en train de faire une course de fond. Et vous avez déjà vu, dans ces longues courses de fond, il y a des postes de ravitaillement. Et le coureur rapidement prend quelque chose pour la route et continue sa course. Et les cultes que nous vivons ici, les rencontres d'études de la Bible, sont comme des postes de ravitaillement pour que les chrétiens puissent continuer la course. Eh bien voilà à quoi sont appelés les responsables de l'Église. À conduire le troupeau et puis à le ravitailler. Donc l'ancien ou les anciens accomplissent une tâche de berger. Une tâche qui était difficile à l'époque parce que le berger devait souvent faire de longs déplacements, il y avait des dangers réels sur la route, il fallait du courage pour être berger. Et il faut encore du courage aujourd'hui pour être responsable. Le berger, je l'ai dit dimanche dernier, mais savait se faire reconnaître de ses brebis simplement par sa parole. Le berger parlait. Et sa parole avait un effet, les brebis le reconnaissaient. Et le berger marchait devant le troupeau, et marcher devant nous indique qu'il y a là un exemple à suivre. Le berger est un modèle. Un peu plus loin, il y a un autre verbe qui nous aide à cerner ce à quoi les responsables sont appelés. Verset 2, il est dit que ces anciens doivent veiller sur le troupeau. Et veiller sur est lié à un substantif, le substantif sur veillant. Ceux qui veillent sur sont des surveillants. Et les surveillants sont ceux qui doivent veiller sur le troupeau. Et les surveillants sont appelés dans l'Écriture des épiscopes. Épiscope veut dire surveillant. Et épiscope a donné le mot évêque plus tard. Mais à l'origine, les surveillants, les épiscopes, étaient des anciens. En fait, ici, ce n'est même pas le titre qui est employé, ce n'est que le verbe. Il est dit des anciens qu'ils doivent surveiller, qu'ils doivent veiller sur le troupeau. Donc, ils doivent exercer une vigilance pour protéger le troupeau, le protéger des loups, le protéger des faux bergers qui pourraient venir ravir des brebis pour les éloigner du Christ. Et Pierre dit, faites paître le troupeau de Dieu qui est chez vous. Donc ce troupeau dont les anciens ont la charge, ce n'est pas leur troupeau, ce n'est pas leur église, c'est l'église de Dieu. C'est important de le dire. Souvent, celui qui conduit peut avoir l'impression d'avoir pour propriété le troupeau qu'il conduit. Non, celui qui est propriétaire, c'est Dieu. Il est question du troupeau qui est chez vous. Il n'y avait qu'un seul troupeau, mais ce troupeau se retrouvait dans différents lieux. Et dans ces différents lieux, dans ces différentes maisons, il y avait à chaque fois des anciens, des responsables qui en avaient la charge. Alors vous allez me dire, ça c'est à l'époque, qu'en est-il aujourd'hui pour nous ? Il me semble que ce que Pierre adresse aux responsables comme exhortation, ce sont des exhortations qui concernent tous ceux qui ont une situation de responsabilité dans l'Église. Une responsabilité de leadership et une responsabilité d'enseignement de la parole. Et non seulement pour toute l'Église locale, mais je crois aussi pour des parties de l'Église locale. Donc ces anciens ne sont pas que le pasteur qui est salarié. Bien sûr, il est concerné aussi. C'est aussi un ancien, comme Pierre était un ancien. Pierre en tant qu'apôtre, bien sûr. Mais ici, il est question de responsables qui peuvent être des groupes de personnes qui portent la responsabilité de conduire, de nourrir, de veiller sur le troupeau, de le protéger. Et ces responsables, dans notre Église, peuvent être les responsables de l'enfance, qui ont la charge du groupe des enfants. Ça peut être les responsables de groupe de maison qui ont la charge de leur groupe de maison. Ça peut être les responsables du groupe des dames. Cela peut être les responsables de jeunesse. Ça peut être les membres du conseil. Même si à ce sujet, on peut noter quand même que souvent dans le Nouveau Testament, une distinction est faite entre ceux qui sont anciens et ceux qui sont diacres. Mais ici, dans notre texte, Pierre ne fait pas cette distinction. Et bien sûr, ces anciens sont aussi l'équipe pastorale. L'équipe pastorale est un peu un cas à part, parce que les pasteurs reçoivent une rémunération pour le travail qu'ils effectuent, et puis qu'ils y consacrent l'entier de leur temps, ce qui n'est pas le cas des autres responsables. Souvent, les pasteurs, on le voit dans les pays où il y a une réelle persécution, sont aussi davantage menacés, ce qui nous concerne dans notre texte, puisqu'il est question de persécution. Et dans la loi française, les pasteurs sont aussi un cas un peu à part, puisqu'ils ne sont même pas soumis à la loi du travail, et donc ils n'ont pas ces protections-là, ce qui les fragilise d'ailleurs un peu. Et puis finalement, les pasteurs sont encore un peu à part dans le sens où il n'est pas toujours simple d'articuler leur ministère de plein temps en lien avec des gens qui sont aussi responsables comme lui ou comme eux, mais sans être à temps plein et sans être rémunérés. Ce qui conduit d'ailleurs, et il y a des enquêtes qui ont été faites à ce sujet, une enquête qui a été faite il y a une dizaine d'années, je pense, qui montre qu'il y a un nombre quand même extrêmement important de pasteurs qui, à un moment donné de leur ministère, quittent, n'arrivent plus à persévérer en raison de difficultés dues à leur ministère, souvent, je dirais pour une majorité des cas, souvent dues à des conflits dans leurs relations dans l'église locale ou à des problèmes liés à la famille, souvent comme conséquence d'une charge qui était lourde pour eux dans l'église. Alors, peut-être qu'à ce stade, je fais encore une parenthèse avant de revenir à notre texte. J'ai dit tout à l'heure que le ministère pastoral, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est pas défini dans le Nouveau Testament. C'est vrai que de manière traditionnelle, comment définit-on aujourd'hui un pasteur ? On dit qu'un pasteur, c'est, souvent on le dit, c'est quelqu'un qui enseigne la parole et qui fait des visites. En fait, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu d'autres périodes dans l'histoire où les pasteurs n'avaient pas ce rôle-là. Ce rôle était défini notamment, d'après ce que je crois m'en souvenir, depuis Wesley, de cette manière-là. Et donc, comme on définit un rôle très précis, On a tendance à penser qu'un pasteur est interchangeable avec un autre pasteur. Ça reste toujours un pasteur. Et l'autre pasteur va faire la même chose que le précédent. Or, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de la Bible, des gens qui s'intéressent à la théologie pratique ou à la missiologie, considèrent que ce modèle du pasteur très formaté est un modèle qui n'est pas forcément pertinent dans l'Église d'aujourd'hui, qui ne correspond pas toujours à la réalité du terrain non plus, et qui même peut freiner le développement de l'Église en France. Et je soumets cela à votre appréciation et à votre prière. Le CNEF qui s'intéresse aux vocations et au fait que des gens puissent entrer dans un ministère pastoral constate qu'il y a besoin chaque année de 80 nouveaux pasteurs pour la France. Il y aurait besoin de 80 nouveaux pasteurs formés chaque année pour la France. Or, actuellement, les 8 institutions de formation évangélique pour la francophonie ne forment ensemble que 30 à 40 nouveaux pasteurs. Donc on voit qu'il y a de grands besoins. Et peut-être qu'une partie du problème, je dis bien une partie, vient de ce que l'on a de la peine à reconnaître aujourd'hui, qu'il y a des spécificités dans les appels que Dieu adresse. Et donc aussi des ministères différents que sont appelés à jouer les personnes qui viennent exercer un ministère dans une église locale. Certains ont des qualités d'enseignants, d'autres de missionnaires, d'évangélistes, d'autres encore de constructeurs, de bâtisseurs, d'autres encore d'administrateurs, d'autres encore vont être spécialisés en relations d'aide, d'autres encore vont être des spécialistes pour accompagner la souffrance. Certains sont à l'aise dans des ministères très généralistes, d'autres sont plus à l'aise dans des ministères plus spécialisés. Et donc il est toujours utile pour une église de se dire, mais de qui a-t-on besoin pour venir compléter l'équipe des personnes déjà en place? Pour parler de cette diversité des appels que Dieu adresse aux gens qui aujourd'hui sont nommés pasteurs, mais qui n'ont pas tous à accomplir la même mission, certains parlent aujourd'hui de couleurs ministérielles. Parce qu'il y a des dons divers. Et que l'Église, sans doute, ferait bien de reconnaître cette diversité de couleurs, cette diversité de profils, pour que l'Église soit équipée. Il est dit dans Éphésiens que Dieu équipe l'Église avec des dons qu'il accorde à son Église. Et c'est de cette manière-là, en reconnaissant les dons spécifiques, que l'Église peut grandir. Alors je reviens à notre texte, après cette longue parenthèse, pour voir 3 recommandations que Pierre adresse à ceux qui sont responsables en Église. La première, au verset 2, « Veillez sur le troupeau, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. » Non par contrainte. Peut-être qu'une question que peuvent se poser tous ceux qui ont un ministère de responsable dans l'Église, c'est quelle est ma motivation pour exercer une responsabilité dans l'Église? Et si j'exerce actuellement une responsabilité, pourquoi est-ce que j'ai accepté cette responsabilité? Est-ce que cela répondait à un appel de Dieu? Est-ce que cela a été confirmé par l'Église? Et si aujourd'hui je suis responsable d'un secteur d'activité et que j'ai un troupeau, que ce soit les enfants, les jeunes ou un autre troupeau, les dames, et que je suis fatigué ou que je suis face à des difficultés, est-ce que j'arrive encore à persévérer dans mon ministère, non par contrainte, mais par la volonté de celui qui m'a appelé? Vous savez, quand les anciens, donc les responsables de l'Église, travaillent sous la contrainte du regard des autres, ou s'ils sont gouvernés par des contraintes intérieures qu'ils n'ont pas réussi à résoudre, cela risque de donner naissance à une Église qui ne va pas pouvoir vivre dans des relations mutuelles joyeuses, une Église qui sera emprisonnée par toutes sortes d'obligations. Et pour ceux qui ont la tâche de pasteur, cette contrainte dont il est question ici peut venir de toutes sortes d'attentes, parfois contradictoires, des membres de l'Église. Certains aimeraient plus ceci, d'autres aimeraient plus cela. Il y a souvent beaucoup d'imaginaire qui est projeté sur ceux qui sont rémunérés pour le service du Seigneur. Parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils sont payés par l'Église, certains pensent qu'on peut tout attendre d'eux. Or, un pasteur ou un responsable ne peut jamais répondre à toutes les attentes des uns et des autres. Et s'il le faisait, il se perdrait. Et le pasteur est d'abord au service du Seigneur, parce que c'est à lui, en définitive, qu'il devra rendre des comptes. Mais ensuite, bien sûr, il est aussi appelé à être un collaborateur qui est actif dans une équipe qui a des dons divers. Et être au service de l'Église ne veut pas forcément dire qu'il faut répondre à toutes les attentes des uns et des autres. Parce que le pasteur n'est pas un fonctionnaire. Il est dit ici qu'il faut veiller sur le troupeau, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Un responsable, quel qu'il soit, un responsable qui exerce sa mission dans l'Église avec le sentiment de devoir agir sous la contrainte, ne va pas être un responsable heureux. Il va se fatiguer. Il risque de fatiguer sa famille et il risque de fatiguer l'Église en définitive. Alors que veut dire mener son ministère selon Dieu ? Ben, je crois que la référence, c'est d'abord la parole et c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit conduire. Deuxième remarque que Pierre adresse aux responsables de l'Église. Il leur dit « Veillez sur le troupeau, non pas pour des gains honteux, mais avec ardeur. » Verset 3. « Non pas pour des gains honteux. » Cette fois, c'est le comportement des responsables à l'égard de l'argent qui est ici questionné. Que sont ces gains honteux ? Ça peut peut-être être lié à une gestion malhonnête de l'argent qui transite par les comptes de l'Église. Et ça existe malheureusement. Et parfois c'est plus facile encore d'avoir une gestion malhonnête quand on a des fonds spéciaux, comme ça pouvait être le cas dans ces premières églises où il y a des collectes qui étaient rassemblées avec des fonds importants destinés à soutenir des personnes dans le besoin. Mais les gains honteux peuvent sans doute aussi se référer à des salaires indécents. Et quand on parle de salaire indécent, on a tous à l'esprit le train de vie luxueux que mènent certains télévangélistes qui possèdent des villas de luxe, certains même avec un zoo privé attenant leur villa et qui voyagent en jet privé et qui trompent ensuite leurs fidèles en présentant ce qui est au fond de la simple cupidité, mais en présentant cette richesse comme une forme de bénédiction du Seigneur sur leur ministère. Alors, il nous faut faire aussi attention aux clichés, parce que notre vision de l'argent tient, a aussi une composante culturelle. Et notre rapport à l'argent a une composante culturelle. Les Américains n'ont aucune difficulté à parler de ce qu'ils gagnent, contrairement aux Français. Et dans la culture américaine, il est tout à fait normal qu'un pasteur d'une grande église soit comparé à un cadre supérieur d'une grande entreprise et qu'il reçoive un salaire équivalent à celui d'un cadre privé d'une grande entreprise, ce qui serait en France jugé comme choquant. Donc il nous faut tenir compte de cette composante culturelle. Mais la question qui peut se poser, qu'on soit aux États-Unis ou en France, c'est quelles sont les motivations que l'on a à accepter un poste de responsable quand il y a des avantages soit pécuniaires, soit matériels. C'est cette question de motivation qui nous importe ici. Et ce que Pierre demande aux responsables, c'est de ne pas être motivé par l'appât du gain. Il leur dit « Soyez empressés dans le service. Ce qui doit vous motiver, c'est le service pour le Seigneur. Ce n'est pas l'argent. Vous devriez être dévoué, vous devriez être prêt à donner de votre personne. » Alors il n'est pas non plus demandé aux responsables de faire vœu de pauvreté devant le Seigneur, comme cela a été une tendance de toute l'Église au cours des siècles, avec le monachisme. On doit faire attention aussi au misérabilisme. Il y a des églises qui ne paient pas leurs pasteurs. Les pasteurs n'arrivent pas à vivre, ils vivent misérablement. On a l'exemple de Paul qui a su s'adapter à des situations d'abondance et des situations de disette. Il n'y a rien de honteux à vivre parfois dans l'abondance. Mais il faut aussi savoir vivre parfois dans la disette. Et d'ailleurs, 1 Timothée 5, verset 17, évoque les anciens qui méritent un salaire, des honneurs doubles. On pense généralement qu'il s'agit d'un salaire double quand ils dirigent bien et se donnent de la peine. Donc l'Écriture n'est pas contre le fait de bien rémunérer un enseignant de la parole, mais attention à lui de ne pas se laisser gagner par l'appât du gain. Quand des responsables d'église, qu'ils soient rémunérés ou non, cherchent uniquement à augmenter leur confort personnel par l'exercice de leurs fonctions, ils risquent de devenir des séducteurs, d'engendrer de mauvaises attentes dans l'église, et puis, possiblement aussi, d'engendrer des comportements qui vont être répréhensibles, parce qu'ils seront abusifs. Mais j'aurais envie de dévoiler l'autre face aussi. Là, nous évoquons ceux qui sont tentés par l'appât du gain. Il y a aussi ceux qui dirigent en ayant toujours la crainte de manquer. Pierre ne l'évoque pas ici, mais c'est l'autre facette, c'est la même réalité d'une certaine manière. Ceux qui dirigent toujours par crainte de manquer, de ne pas avoir assez, font de l'argent aussi un problème constant. Et le fait de chercher à économiser chaque euro dépensé peut paraître d'une certaine manière très spirituel, on gère bien l'argent. Mais est-ce que ce type de leadership ne traduit pas aussi finalement un manque de confiance dans le Seigneur? Est-ce que ça n'empêche pas finalement le peuple de Dieu d'agir avec ardeur, enthousiasme, dévouement pour des projets qui sont nouveaux? Troisième recommandation, veillez sur le troupeau, non pas en dominant comme des seigneurs sur ceux qui vous ont été confiés, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et cette fois, c'est le comportement des responsables à l'égard des fidèles qui est questionné. Malheureusement, les journaux en témoignent. Si vous avez été dans des églises, vous en rendez compte vous-même. Malheureusement, les conflits de pouvoir ou les abus d'autorité sont relativement fréquents aussi dans les églises. On trouve déjà cette réalité dans le Nouveau Testament. Les fils de Zébédée qui veulent se placer au-dessus des autres et qui demandent à pouvoir être assis à gauche et à droite de Jésus dans son royaume. On voit ensuite les 10 autres disciples qui sont indignés et une dispute qui naît à propos de savoir qui est le plus spirituel. Quand il est question de comportement, d'autoritarisme, on peut se demander d'où viennent nos modèles de gouvernance ou de leadership. Et dans ce même texte où les questions des fils de Zébédée, un texte aussi qui a été lu en introduction de ce culte, Jésus pose la question des modèles de leadership en disant, mais ne vous basez pas sur ce qui existe dans le monde. Parce que dans le monde, souvent, la manière de diriger vient du monde politique ou du monde militaire, où on a une forme de gouvernance très autoritaire, avec un goût du pouvoir qui amène malheureusement souvent à en abuser. L'Église doit veiller à ne pas trop s'inspirer ou à ne pas s'inspirer du tout des modèles de la société, parce qu'elle a un modèle qui lui est propre. C'est le modèle du leader-serviteur. On l'a lu en introduction, Matthieu 20, 28, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » Quand Pierre parle aux responsables, il s'adresse à des gens qui sont dans une culture où le statut social est quelque chose d'important. Et dès lors qu'ils étaient en possession de ce statut social, ils pouvaient être tentés d'en user et même d'en abuser. Et dans cette culture où le statut social est important, c'est aussi une culture de l'honneur. On ne peut pas perdre la face publiquement. Et pour préserver son honneur, le responsable pouvait être tenté de recourir à de l'autoritarisme dans l'Église, en cherchant quelque part à faire taire les autres par la contrainte. Or, Pierre demande ici aux anciens de reconnaître que les croyants qui sont là, dans leur maison, eh bien, sont des croyants que Dieu leur a donnés, ce sont les brebis que Dieu leur a données. Il les a assignés à ces anciens pour qu'ils en prennent soin. Et de la même manière, il demande aux croyants de reconnaître que les anciens qui sont responsables de cette Église sont les responsables que Dieu leur a donnés. Quand Pierre demande aux anciens de ne pas agir avec autoritarisme, il ne dit pas exactement avec quel modèle il faut réagir. Il dit simplement « Soyez-vous des modèles ». Et on peut se demander « Mais quel modèle alors ?» Parce que la tâche est redoutable. Il n'est pas facile de se dégager des modèles qu'on a hérités, de ceux qui nous sont propres à notre culture, de ceux que nous avons hérités de notre famille. Nous avons tous hérité de modèles. Et c'est un domaine que Jésus a dû travailler avec ses disciples et qu'il doit travailler avec chaque leader, avec chaque responsable. C'est le verset 4 qui vient nous montrer quel est le bon modèle. Le modèle se trouve auprès du grand berger. Et les petits bergers doivent imiter le modèle du maître berger. Or, quel est le modèle que nous trouvons en Jésus ? Nous voyons chez Jésus une autorité qui est forte. Plusieurs textes nous disent que la parole de Jésus était tellement forte que les gens reconnaissaient cette autorité. C'est une parole qui était redoutable d'efficacité. Jésus n'hésitait pas à dire, à reprendre des disciples, à s'interposer face au mal. Mais en même temps, l'autorité de Jésus est une autorité douce, aimante. Aimante pour tous ceux qui le suivent. Jésus s'est mis devant et il a demandé qu'on le suive. Et Pierre nous dit qu'un jour, tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église vont être appelés à devoir rendre des comptes. Et cela peut faire peur. Parce que qui est à la hauteur de la tâche? Qui peut dire qu'il a toujours bien réussi? En tout cas, pas moi. Mais il y a un encouragement qui nous est donné au verset 4. Lorsque nous nous tiendrons devant le trône de Dieu, il n'y a que des récompenses qui sont envisagées. Et ces récompenses ne dépendent pas de nos efforts personnels. Il est dit que le responsable, le leader, recevra une couronne qui est faite de gloire et que la récompense sera sa gloire. Nous allons terminer en allant un peu plus vite sur les versets qui restent. Mais Pierre en vient maintenant à dire, voilà, face à un tel leadership qui cherche à se calquer sur le modèle du Christ, un leadership qui reste imparfait, qui reste perfectible, quelle est la réponse que doit donner le reste de l'Église? Et Pierre dit au verset 5, vous de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme les anciens, tout au début de l'Église, étaient certainement des personnes âgées, dans ces premières églises de maison, eh bien, Pierre établit un contraste entre ces personnes âgées et la jeunesse dans l'Église. Cette jeunesse qui n'a pas encore la possibilité d'être dans une position de leadership, qui a peut-être des revendications, qui a peut-être des critiques à l'égard de ceux qui sont responsables. Aujourd'hui, la fonction d'ancien n'est plus réservée à des aînés, et donc le contraste s'établit de manière différente, il s'établit entre ceux qui ont la charge, la responsabilité de diriger, et puis tous ceux qui ne sont pas en charge de diriger. Donc tout le reste de l'Église. Et donc c'est à tout le reste de l'Église que Pierre dit « Soyez soumis aux anciens ». Acceptez les personnes que Dieu a mises en poste de responsabilité. Pourquoi ? Pourquoi cette soumission ? On le comprend quand on lit Hébreux, qui reprend la même idée, Hébreux 13, verset 17, où l'auteur de l'Épître dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. Alors, qu'ils puissent le faire, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. » Donc voilà la raison de la soumission, c'est permettre, faciliter qu'il y ait une bonne cohabitation au sein de l'Église, qu'il y ait un travail possible dans l'unité, pour qu'on puisse vivre dans l'amour les uns avec les autres. La question qui se pose, c'est est-ce que cette soumission exclut toute critique constructive? Les critiques négatives, on les laisse de côté. Mais est-ce qu'il y a place pour des critiques constructives? Certainement. Ce n'est pas parce qu'on est soumis qu'on ne peut pas aller rencontrer un responsable et lui faire part de nos attentes, lui dire comment nous verrions telle ou telle chose, ou même remettre le responsable en question en lui disant « Mais là, quand tu as fait ceci ou cela, tu agis, me semble-t-il, plus par autoritarisme que par désir d'être un leader serviteur. » Et le responsable est amené à se remettre lui aussi en question. En conclusion, Pierre adresse une même recommandation à tous, responsables ou membres de l'Église. Il dit « tous », donc vous tous, nous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. La question de l'humilité pose la question du regard que j'ai sur l'autre. Si je suis responsable, quel est le regard que je porte sur les membres de l'Église, sur la jeunesse, sur l'enfance, sur des membres qui sont en difficulté? L'humilité concerne mon attitude intérieure. Est-ce que je vais les considérer du haut de ma position d'ancien ou du haut de ma position spirituelle que j'estime supérieure? Ou est-ce que je vais les considérer ce jeune, considérer cette personne qui est en difficulté comme quelqu'un qui mérite de l'attention et peut-être que je pourrais aider par mon regard ou par mon attitude bienveillante? Et puis, de l'autre côté, comment les membres de l'Église vont-ils considérer leurs anciens, c'est-à-dire leurs responsables? Quel regard auront-ils sur leurs responsables? Est-ce qu'ils sauront voir en eux des personnes qui souvent se consacrent sans relâche au service du Seigneur? Des gens qui ne sont pas parfaits, qui font de leur mieux, mais qui font des erreurs, tout en demandant au Saint-Esprit qu'il pallie à leurs faiblesses. Est-ce qu'il y aura ce regard-là de bienveillance et de soumission à l'autorité établie? Je crois important qu'on ne soit pas dans des positions d'arrogance ou de jugement d'autrui, des positions qui vont nous faire tomber dans l'orgueil. Mais si nous sommes tombés, et nous pouvons tous tomber, relevons-nous, parce que Dieu est un Dieu qui fait grâce, encore aujourd'hui. Vous savez, on attend souvent beaucoup des autres, et on attend souvent beaucoup des responsables en particulier. C'est juste qu'il y ait des attentes, puisque les responsables ont une charge, mais en définitive, il n'y a que Dieu qui peut totalement prendre soin à la fois des bergers et de son peuple. Alors je termine en lisant les deux derniers versets sans faire de plus amples commentaires. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes car il prend soin de vous. Amen.